Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Franck Ferrand n'est pas à mes côtés aujourd'hui, bien au chaud en studio à Europe 1, puisqu'il vous propose une émission spéciale depuis la nef du Grand Palais dans le cadre de l'exposition La France en relief, chef-d'œuvre de la collection des plans-reliefs de Louis XIV à Napoléon III. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Ce sont les amoureux de modélisme qui vont être comblés. Figurez-vous Julia que je me trouve au milieu d'un des plus beaux ensembles de maquettes qui existent au monde. 16 maquettes au 1/600e, réalisées pendant près de 2 siècles du règne de Louis XIV à celui de Napoléon III, et qui figurent d'une façon incroyablement détaillée toutes sortes de places fortes disséminées essentiellement le long d'une frontière française alors en pleine constitution. Comme des fragments de paysages, si vous voulez, comme des morceaux du territoire français, avec leurs reliefs, leurs végétations, leurs rivières, leurs ponts, leurs villes, leurs maisons et jusqu'aux fontaines sur les places publiques. Je vous parle de maquettes. Il faut que vous imaginiez tout cela très grand, évidemment. Dites-vous que certains des plateaux exposés, en couleur, en 3 dimensions, mesurent plus de 150 mètres carrés. À ce rassemblement inouï de chefs-d'œuvre de modélisme surgi du passé, à ce trésor habituellement invisible pour le public, et vous allez voir à quel point les visiteurs du Grand Palais en ce moment sont privilégiés, il fallait un écrin à l'échelle. Quelle plus belle, quelle plus vaste vitrine aurait-on pu trouver que cette verrière du Grand Palais où nous accueille Max Polonowski, qui est directeur du musée des plans-reliefs et qui d'habitude veille sur tous ses trésors. Ce qu'il faut dire, bonjour Max Polonowski.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir au milieu de tous ces trésors. Ce qu'il faut dire, c'est qu'habituellement, ces plans-reliefs ne sont pas visibles du public. Il y a aux Invalides un musée des plans-reliefs, évidemment, mais les plans qui sont exposés au public ne sont pas ceux que vous présentez ici au Grand Palais.
Voilà, de l'autre côté de la Seine, il y a un musée au 4e étage de l'Hôtel National des Invalides, le musée des plans-reliefs. Et nous avons décidé...
On est à quoi 500 mètres,
voilà,
j'allais dire.
Hein.
Vous avez traversé la Seine,
pont,
en fait.
Voilà. Et donc, nous avons décidé de ne pas dépecer notre présentation au public et surtout de montrer un certain nombre de maquettes, 16 plans-reliefs, qui ne sont pas habituellement montrés, qui sont dans les réserves depuis plus de 30 ans.
Alors, pour que nos auditeurs se figurent à quoi tout ça ressemble, il faut imaginer d'immenses, je dis immenses, là, par exemple, nous sommes devant le plan-relief de Strasbourg. Il fait 72 mètres carrés, hein, donc c'est la taille d'un appartement moyen, si je puis dire. Il est monté sur une table. Ce sont des tables d'époque,
voilà,
j'imagine.
Voilà, c'est ça. Il est monté sur un piétement d'origine.
En plusieurs morceaux.
Oui.
Alors,
ce sont des pièces de puzzle parce
que ça, voilà.
Ça se range ensuite dans des rayonnages, mais ce sont en effet, ils sont assemblés là pour former les 72 mètres carrés.
Alors évidemment, quand on parle du plan relief de Strasbourg, il est relativement plan celui-ci puisqu'on est à Strasbourg. Hein. Il a été commencé sous Louis-Philippe, complété sous Napoléon III. Alors évidemment, c'est magnifique. On a l'impression tout simplement d'être en avion ou en hélicoptère, plutôt en hélicoptère d'ailleurs parce qu'on se promène exactement comme on veut, on s'arrête autant que l'on veut. Et l'on a sous les yeux, bien sûr, cette cathédrale de grès rouge qu'on reconnaît très loin avec son immense flèche, bien entendu. Et puis les quartiers, les rues, tous les toits d'ardoise de cette ville de Strasbourg qui, à l'époque, au milieu du 19e siècle, se resserrait autour de sa cathédrale. On voit les ponts sur la rivière de Lille et puis tout le paysage environnant également. On voit des champs avec des cultures différentes, hein, on voit des couleurs différentes en fonction des cultures. On voit même les parcelles agraires. On voit bien sûr les villages, les hameaux, les fermes. Et puis en périphérie, alors tout ça a été remanié sous Napoléon III pour faire figurer la grande innovation de l'époque qui était le chemin de fer.
Oui, alors on a le chemin de fer, l'usine à gaz, tous les aménagements modernes de la fin du 19e siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce que vous décrivez, c'est-à-dire la minutie avec laquelle sont représentés toutes les maisons de Strasbourg, tous les jardins.
Mais le moindre buisson est figuré. Hein, c'est incroyable. Ouais. On se rend compte, par exemple, s'il y a des tas de bois dans le jardin d'une maison, le tas de bois est représenté sur le plan relief.
Alors que ce n'était pas la chose qui intéressait les constructeurs de ces maquettes, qui, eux, se sont intéressés à ce que vous ne mentionnez pas, c'est-à-dire en réalité toutes les fortifications qui sont autour de la ville.
J'allais y venir, puisqu'évidemment, au départ, il s'agit de présenter des fortifications. Nous allons y venir dans un instant. Nous allons parler, bien entendu, de Vauban et de l'origine de ces plans-reliefs. Ce qui nous amuse, nous, c'est d'avoir un instantané géographique, topographique de ce que pouvait être un paysage, une ville, un urbanisme du début du XVIIIe siècle à la fin du XIXe.
Alors ce qui est en plus une particularité de Strasbourg, c'est qu'il existe un autre plan-relief de Strasbourg au musée historique de la ville de Strasbourg à un siècle d'écart puisqu'il date de 1727, celui de Strasbourg. Et celui-là, on l'a fabriqué en 1830, justement parce que celui de Strasbourg n'était plus dans la collection. Donc c'est très intéressant, justement, de pouvoir comparer l'évolution de l'urbanisme et des paysages à un siècle d'écart.
Vous avez fait un travail considérable. Depuis ce plan-relief de Strasbourg, je jette un œil englobant sur l'ensemble des installations que vous avez préparées, que vous avez conçues ici, sous cette verrière du Grand Palais. C'est une exposition pharaonique, c'est gigantesque ce que vous avez fait. Il a fallu transporter tous ces plans-reliefs, ça a dû être très compliqué à faire.
Ah, tout ce qui touche au plan-relief est toujours très compliqué, compte tenu de leur taille, justement, de ce que vous indiquiez. Et c'est vrai qu'on a mis 3 mois à mettre en place cette exposition. On a mis 1 mois et demi à les descendre du 4e étage des Invalides pour les amener ici. Et ils ont été montés en 5 jours. Donc on avait fait des grandes répétitions pour être sûr de ne pas se tromper, parce que le temps était court.
Alors cette exposition est réalisée en partenariat avec la toute jeune, naissante maison de l'histoire de France. Nous allons rejoindre Éric Dereau, nous allons rejoindre d'autres experts pour parler de ces plans-reliefs, de cet extraordinaire aperçu qu'ils nous offrent non seulement sur l'histoire, mais pour une fois n'est pas coutume dans cette émission, sur la géographie.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Franck qui vous fait découvrir cet après-midi sur Europe 1 un trésor fragile exposé en ce moment au Grand Palais à Paris. Ce sont des maquettes historiques de villes fortifiées.
C'est à une leçon d'histoire en relief que je vous convie cet après-midi, Julia, sous cette verrière du Grand Palais. Nous sommes en compagnie, toujours bien entendu, de Max Polonowski qui nous reçoit ici, qui est le directeur du musée des plans-reliefs des Invalides et qui donc est le co-commissaire de l'exposition, avec Éric Dereau, qui donc est membre du comité scientifique de la nouvelle maison de l'histoire de France et qui a donc participé. Vous êtes vous aussi commissaire de cette exposition. Vous avez mis l'accent dans cette exposition sur la notion de frontière. Vous expliquez évidemment toute l'évolution de la fortification. On va y revenir au tout début de cette aventure. Il y a un homme quand même. C'est Vauban.
Oui, bien sûr. Enfin, Vauban, entre autres, bien entendu. Parce que d'abord, c'est quelqu'un de très complet. C'est pas seulement un fortificateur, c'est pas seulement un soldat. C'est aussi quelqu'un qui va penser le paysage, qui va penser l'urbanisme, l'eau, la statistique, la répartition. Et ce que je trouve très frappant avec ces plans-reliefs, c'est que ce sont aussi, on imagine mal aujourd'hui, évidemment, ce sont des objets d'art. Mais on voit bien qu'à l'époque, c'est aussi une formidable information sur les cultures, sur les routes, sur les voies d'eau. Donc c'est à cette époque où au XVIIIe on cultive le savoir, la science, où on essaie de commencer à expliquer le monde, eh bien ce sont aussi ces plans-reliefs de formidables leçons de choses, non seulement de géographie mais aussi de sciences naturelles, puisqu'on essaie de respecter la reconstruction de l'environnement.
Ah oui, d'une façon plus que minutieuse. Hein. C'est un travail quasi, j'allais dire archéologique. Nous avons, nous, une impression archéologique, mais pour les gens qui le faisaient, c'était tout à fait actuel. Évidemment.
Un outil extraordinairement moderne, un outil presque d'usage statistique, puisqu'on sait le nombre de pieds de vigne qui étaient plantés.
Alors nous reparlerons tout à l'heure, en compagnie du président de l'association Vauban, de ce personnage, de Vauban. Au départ, les plans-reliefs avaient une dimension spécifiquement stratégique. Max Polonowski.
Alors, en fait, c'est une idée de Louvois. qui a voulu...
Ministre de la guerre de Louis XIV.
Exactement, qui a voulu que le souverain puisse voir dans son cabinet de travail. Le roi Louis XIV ne sort plus de son cabinet de travail à la fin de son règne. Et donc, il a voulu que le roi puisse juger des améliorations possibles des places fortes qui venaient d'être prises pour les défendre mieux. Et donc, c'est... Vous savez, la fortification est quelque chose qui est assez difficile à lire en plan. Fortification bastionnée, c'est plein de lignes, de niveaux différents. Et donc, les trois dimensions sont essentielles pour comprendre.
Au départ, c'est un morceau du paysage qu'on apporte au roi à domicile, en quelque sorte. Le successeur de Louis XIV, son arrière-petit-fils Louis XV, était très fringant. Lui, il a beaucoup circulé, évidemment, sur les marches du royaume. Il a participé aux campagnes de Flandre. Et néanmoins, il continue à commander des plans-reliefs. Et ses successeurs aussi.
Absolument. Cette collection qui était faite pour le roi Louis XIV, eh bien, elle est devenue très très vite un objet de prestige.
Qui les fabriquait ?
Alors, d'abord, il y a deux étapes dans la fabrication. Il y a des topographes qui se rendent sur place et qui font un relevé minutieux du terrain, des maisons, etc. Et ensuite, toutes ces données sont livrées à des modeleurs, menuisiers, décorateurs qui vont fabriquer pendant des années ces plans-reliefs.
Et donc c'est le fruit du travail de nombreux spécialistes pendant longtemps, pendant
et
des années.
Des générations. C'est-à-dire que les gens se succèdent.
Parce qu'on les peaufine, on les modifie, on les aménage.
On les met à jour.
On les met à jour, oui,
voilà, parce que les militaires ont besoin justement de toutes ces données sur les modifications qui ont pu arriver sur le terrain.
Les plateaux ont l'air d'être faits en bois, je ne m'abuse pas. Hein,
c'est du bois de chêne.
C'est du chêne.
Voilà, c'est du bois de chêne qui est décoré avec de la soie qui est mélangée.
Auquel on donne exactement le relief du territoire, bien entendu.
Absolument, tout à fait, modelé selon le terrain, et puis ensuite décoré avec de la soie. Ce sont des objets très précieux. Et les maisons sont des âmes de tilleul qui sont enveloppées de papier sur lequel sont rapportés tous les éléments de la décoration, c'est-à-dire les fenêtres, les lucarnes, les cheminées, enfin... C'est extrêmement précis.
On a construit des plans-reliefs jusqu'à la fin du règne de Napoléon III ? La République ne s'y est pas intéressée ?
Elle a continué une mise à jour. Cherbourg et le dernier, et Metz ont été les deux derniers plans-reliefs qui étaient en cours de restauration et de remise à jour en 1873, lorsqu'on a arrêté de faire les plans-reliefs.
Ces immenses puzzles extrêmement précieux et construits, vous nous l'avez dit, dans des matériaux très, très fragiles, doivent être difficiles à conserver.
C'est un des problèmes, sans doute, de cette collection. Il faut prendre de grandes précautions pour conserver ces immenses maquettes. Parce que ce qui est toujours un peu frappant, c'est qu'on imagine que ce sont des jouets miniatures. Mais en fait, ce sont des miniatures immenses.
Jouets de prince, titrait une de mes consoeurs dans la presse récemment.
C'est vrai, c'était une expression d'un de mes prédécesseurs, le professeur Louis Grodecki, qui parlait de jouets princiers, tout à fait.
Évidemment, la maquette fait constamment rêver. Elle nous donne l'impression d'être Gulliver. Elle nous donne une impression de gigantisme face à un territoire qu'on a presque le sentiment de pouvoir embrasser. Nous nous promenons dans un instant, toujours sous cette verrière du Grand Palais, d'un plan-relief à l'autre. Nous allons découvrir des merveilles de relief et aussi des merveilles de fignolage.
Un extrait sur Europe 1 de la symphonie des jouets de Léopold de Mozart. Je vous rappelle qu'on appelait les plans-reliefs les jouets des princes, comme nous l'a appris Franck tout à l'heure. D'ailleurs, Franck n'est pas à mes côtés, je vous le rappelle, puisqu'il vous propose une émission exceptionnelle. Franck n'est quand même pas très loin des studios d'Europe 1.
Au Grand Palais, Julia, où nous sommes les visiteurs privilégiés d'une merveilleuse exposition sur les plans-reliefs. Et les plans-reliefs qui sont présentés en ce moment au public ici au Grand Palais sont ceux des réserves du musée des plans-reliefs. Ce ne sont donc pas ceux qu'on visite habituellement lorsqu'on va aux Invalides. Il y a également d'autres plans-reliefs qui se trouvent à Lille. Nous en parlerons tout à l'heure vers la fin de cette émission. Bonjour Alain Monferrand.
Bonjour.
Les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent bien. Nous avons fait un certain nombre d'émissions ensemble et notamment sur le Grand Vauban qui est une de nos passions communes.
Absolument.
Vous me disiez avant que ne commence cette émission que tout ce qui est exposé là existe, pour l'essentiel en tout cas, encore en grandeur nature. Il ne faudrait pas l'oublier, du point de vue des fortifications, je précise bien.
Oui, la France n'est pas seulement avec cette merveilleuse collection unique au monde par la richesse de la collection qu'on vient d'évoquer, mais c'est aussi un conservatoire naturel à l'échelle, cette fois-ci 1-1, de la fortification, puisque du XVIe au XXe siècle, nous avons pratiquement à toutes les périodes, non pas un ou deux spécimens, mais entre 10 et 20, et pour Vauban, beaucoup plus que ça, une quarantaine de fortifications en parfait état.
Alors, si Vauban éprouve le besoin de présenter au roi des maquettes, des modèles, on appelle ça donc des plans-reliefs, des fortifications qu'il est en train d'établir aux limites du royaume, c'est parce que, à cette époque précisément, la fortification est en train de changer de nature. Et si les fortifications ont changé, c'est parce que l'artillerie a évolué.
La fortification que nous voyons ici, c'est pas Vauban qui l'a créée, c'est créé un siècle avant lui.
Voilà.
C'est la fortification bastionnée. Elle naît d'une révolution industrielle qui est la révolution du boulet métallique qui fait que le château fort devient périmé et qu'on va y substituer des fortifications en terre qu'on peut pas élever très haut, donc on devra se défendre à droite et à gauche, d'où un tracé en étoile, en pentagone, etc.
Alors, c'est Vauban, la fin du château fort et le début de château ces fort, bastions en étoile.
Et tout à l'heure, Max Planowski l'a très bien dit, 1873, c'est quoi ? 1873, c'est le début d'une nouvelle révolution de l'artillerie qui fait que cette fois-ci, on tire à 6 km et que si on tire à 6 km, eh bien, on n'a pas besoin de mettre devant les bastions toutes ces contre-gardes, demi-lunes, réduits, etc., qui ne servent plus à rien puisque c'était nécessaire quand on tirait à 100 mètres. Mais quand on tire à 6 km, ça n'est plus possible. Alors, ce qui est très intéressant ici, on va le voir tout à l'heure, c'est qu'on a au fond l'évolution de Vauban. Vauban n'a pas inventé la fortification bastionnée, mais il l'a portée à un degré de perfection qu'il servira de modèle. Il ne fait pas de manuel de fortification, il dit toujours le terrain commande. Et ici, dans cette exposition, ce qui est remarquable, c'est qu'on voit bien comment le terrain commande. Nous allons voir d'abord des fortifications en terrain plat. Et là, effectivement, on va voir tous les perfectionnements. Vauban commence à Lille, tout seul. Le roi lui confie la citadelle de Lille, 1669. Il termine en 1699, reine des citadelles, en 1699, sur un terrain tout aussi plat, tout aussi inondable. C'est Neubrisac, le chef-d'œuvre. À Lille, il y a 4 lignes de fortifications. À Neubrisac, il y en a 7. Et c'est vraiment l'apogée de Vauban. Et ça, c'est très intéressant. Et alors, entre les deux, il va inventer ce qu'on appelle une deuxième manière, mais ça n'est pas vrai. En fait, c'est une adaptation quand le terrain lui interdit de faire ça. On le verra tout à l'heure avec M. Dereau dans la montagne, avec Besançon pour commencer, où il invente ce qu'on appelle son deuxième système, qui sont en fait des tours à canon. Tours à canon qu'à cause de la difficulté du terrain, il va multiplier dans toutes les fortifications des Alpes.
Pardon d'insister un peu sur cet aspect, mais on a du mal à concevoir l'usage initial de ces plans-reliefs. Il s'agit uniquement de montrer au roi ce qu'on a fait de beau et de bien sur les frontières de son royaume.
Alors, il y a ça, et je dirais que ces plans-reliefs, au fond, si je voulais faire une comparaison avec la période contemporaine, je dirais que c'est le satellite militaire de Louis XIV. C'est tellement précis, et on voit tellement le relief, qu'on peut en faire plein de choses. D'abord, montrer au roi, Vauban le dit en 1695 à Louis XIV, je vous ferai voir sur le plan de Namur certaines imperfections qui permettront, et en fait, il développe la prochaine campagne. Ça permet bien sûr d'entraîner les ingénieurs militaires à conduire la tranchée, par où attaquer, quel est le point faible ou le point fort d'une place. C'est surtout aussi à cela que ça sert. Et puis, je dirais, c'est un état des lieux. C'est-à-dire, quand on prend une place, on la répare immédiatement. Vauban prend Namur en 1692. Il répare immédiatement Namur parce qu'il sait qu'elle sera réattaquée 3 ans plus tard. Donc, on prépare cette défense.
Ce qui veut dire que ceux qui vont être amenés à utiliser le plan relief sont quand même plus nombreux. Il ne s'agit pas seulement du roi, de son ingénieur en chef et de son ministre de la guerre.
On prépare les campagnes. Je ne suis pas certain qu'on ait transporté des plans relief à Versailles. En tout cas, quand il dit sur Namur à Louis XIV, venez au Louvre, je vous ferai toucher du doigt les imperfections de la citadelle actuelle, c'est bien la préparation d'une campagne. De toute façon, la guerre se faisait en été et l'hiver servait à préparer les campagnes, à déduire ce qu'il fallait faire en approvisionnement. C'était ça le rythme. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas de guerre de mouvement parce que l'artillerie n'est pas mobile. Donc, la guerre se fait de place en place. Et d'ailleurs, Fontenoy, au XVIIIe siècle,
1745.
C'est 1745, ça n'est que le choc d'une armée d'investissement, de Courtrai en l'occurrence, et d'une armée de secours, celle du duc de Cumberland, et c'est un combat devant un siège, devant devant un siège et devant une place forte.
Alors ce que je vous propose, Alain Monferrand, c'est que nous nous levions, que nous nous rendions tranquillement à quelques mètres d'ici, devant l'une des maquettes, devant le plan relief de Neubrisach, qui se trouve être un des plus anciens parmi ceux exposés ici au Grand Palais. C'est un plan relief de l'époque de Vauban. Et j'en profite pour rendre hommage aux équipes techniques d'Europe 1 qui, comme d'habitude, accomplissent de véritables prouesses. Alors, est-ce que là, on est devant un plan relief qui est relativement petit, hein, finalement, par rapport à tout ce qu'on va voir. Tout à l'heure, on en verra un qui mesure 160 mètres carrés. Là, ça n'est pas le cas. On est sur un relief extrêmement plat, évidemment.
La plaine d'Alsace.
La plaine d'Alsace.
Alors, c'est le dernier chef-d'œuvre de Vauban. On est en 1699. On vient de perdre sur la rive droite du Rhin vieux Brisach. Donc, il faut défendre la porte d'Alsace, c'est-à-dire celle qui permet ensuite de rentrer en France par la Bourgogne. Donc, on construit une place à partir de rien. D'ailleurs, c'est quasiment un chantier pharaonique puisque 30 000 hommes y travailleront. On va même essayer de faire un canal pour faire venir le grès des Vosges sur cette place forte. Et ce qui est remarquable ici, c'est qu'on a vraiment l'épure parfaite. C'est-à-dire que comme dans les places du Nord, il n'y a pas d'obstacle. Il faut tenir compte de la nappe phréatique et des inondations possibles. Et
c'est une ville nouvelle. Hein,
c'est une
dire.
Ville complètement nouvelle. C'est-à-dire
on va
que
faire le tour si vous voulez pendant qu'on en parle.
Vous y trouvez non seulement les défenses. Et là, on a jusqu'à 7 lignes successives de défense. On a le premier, le deuxième et le troisième système en une seule maquette. Mmh. Et puis, vous y trouvez l'urbanisme de cette époque, car Vauban a fait œuvre d'urbanisme avec la ville endamiée, la place centrale, les casernements. On oublie toujours de dire que c'est Vauban qui inventa le portefeuille de casernement. D'abord,
c'est que ça, le portefeuille de casernement ?
Avant, on logeait les troupes chez l'habitant. Vous imaginez bien ce que ça pouvait présenter comme inconvénient pour ceux-ci. Donc, et puis, par ailleurs, ils étaient plus ou moins mal logés. Il y avait de la promiscuité, les maladies se transmettaient. Donc Vauban va concevoir un portefeuille, ce qu'il appelle un portefeuille de casernement, c'est-à-dire une caserne type reproductible à l'infini qui va permettre de loger décemment la troupe, d'exonérer de cette charge les habitants. Et là, en fait, quand il crée cette place, il n'y a pas de ville. Donc il va créer une ville nouvelle avec ses casernes que vous voyez le long des remparts, le palais du gouverneur, l'église,
le palais du gouverneur, le salut assez spectaculaire.
Des soldats, et puis la place pour manœuvrer.
La petite église au coin de la place, place carrée, tout ça était parfaitement droit au cordeau comme à Richelieu,
absolument.
Comme
c'est
dans toutes ces villes.
Exactement.
Oui, bien sûr,
c'est une ville nouvelle, parfaite. Et elle a souffert pendant la dernière guerre, mais toutes les fortifications sont intactes. Et donc, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on peut aller le voir. Et j'invite vivement les gens à aller en Alsace.
Toujours, c'est la même
absolument.
Chose, c'est la
vous,
même chose.
Vous rentrez par la même porte. Il n'y a rien de cassé. C'est absolument extraordinaire.
Et la maquette, en l'occurrence, le plan relief se trouve être particulièrement frais. On dirait qu'il a été fait hier.
Ah oui,
or, il date de 1703-1706.
La place est pratiquement achevée en 1703. Et donc, c'est le dernier chef-d'œuvre. Vauban meurt en 1707. C'est donc vraiment un peu le plan testament.
Le testament du maître.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Nous retrouvons Franck pour une émission spéciale depuis le Grand Palais. Franck avec ses invités, mais aussi avec, m'a-t-on dit, quelques fidèles de l'émission.
Et oui, Julia, quelques auditeurs nous ont fait la gentillesse de nous rejoindre sous la verrière du Grand Palais. On est tout près des studios d'Europe 1 et on a l'impression en même temps d'être aux confins du Royaume de France. Et là, nous venons d'aborder des maquettes, des plans-reliefs, comme on les appelle, et qui n'ont jamais si bien porté leur nom, car ce sont vraiment des reliefs très marqués que nous avons sous les yeux, Max Polonowski. Juste un mot, il faut dire, parce que je vais peut-être oublier, je sais comment se finissent généralement les émissions, on est un peu pressé, il faut bien dire que l'exposition ne dure que jusqu'au 17 février, donc c'est très peu de temps. Il faut se précipiter au Grand Palais pour voir ces merveilles. Alors là, en l'occurrence, nous sommes devant une fortification de montagne.
Ah, ça, on peut le dire, c'est une fortification très impressionnante parce qu'il s'agit de Fenestrelles, qui était une place française des Alpes et qui a été cédée au duché de Savoie, qui l'a fortifiée à nouveau parce que les fortifications françaises étaient insuffisantes. Et ils ont fortifié la ligne de crête, ce qui transforme...
C'est très spectaculaire, c'est un peu la Grande Muraille de Chine dans les Alpes.
Hein. C'est exactement ça, hein. c'est 4000 marches couvertes qui relient entre eux trois forts différents. Et donc c'est un travail non seulement de maquette, mais sur le terrain qui a dû être tout à fait extraordinaire.
Ah, et c'est une, on pourrait dire que c'est un exercice de style. On voit au flanc de cette montagne assez désolée. Du reste, il y a très peu de végétation. On voit serpenter des routes de montagne. Tout ça donne envie. C'est vrai, quand on parlait de jouets tout à l'heure, tout ça donne envie de jouer. Et pourtant, il s'agit d'une affaire extrêmement sérieuse, Éric Dereau. Il s'agit avant tout de constituer ce qui va devenir la frontière. On forme le précaré, en quelque sorte.
Oui, c'est un des aboutissements de cette opération, menée depuis longtemps d'ailleurs par les concepteurs de l'État, de la nation, plus tard de la nation française, pour donner une forme à peu près dite naturelle au contour de la France. Alors il y a beaucoup de débats là-dessus, mais on va tenter, en particulier dans les Alpes...
Quand on dit naturel, ça veut dire équilibré, qui épouse les accidents
bien entendu, une frontière naturelle n'existe pas. Les frontières sont toutes artificielles, elles sont toutes politiques. Mais ce que l'on peut qualifier de frontière naturelle, c'est trouver une ligne sur laquelle on pourra plus facilement se défendre, que ce soit le Rhin ou que ce soit une ligne de crête ou que ce soit une masse d'eau. Donc tout le débat va consister à trouver des points et ensuite à les défendre dans les traités diplomatiques, prouvant que ce sont là des frontières naturelles, même des frontières historiques.
Vous avez, pour présenter tous ces plans-reliefs, utilisé à peu près tous les artifices, ou plutôt tous les secours de la muséographie. Certains disposent de longues vues qui permettent de voir le moindre détail, des petites maisons, des fortifications, des bastions, etc. Vous avez également des écrans tactiles qui permettent de se repérer sur le plan-relief et d'avoir une sorte de commentaire en direct. Vous êtes aussi en partenariat avec Google Earth.
Oui, c'est un des grands intérêts de cette exposition, c'est d'avoir pu obtenir un partenariat avec Google, qui a créé un logiciel particulier pour numériser les plans-reliefs et les incruster dans Google Earth, ce qui en fait un des événements majeurs de cette exposition.
Alors nous arrivons devant deux très belles... Alors ce qu'il faut dire, c'est que là, les reliefs deviennent très impressionnants. Briançon, Grenoble, c'est très spectaculaire. Ces superbes plans-reliefs ne sont pas exposés habituellement ?
Non, pour l'instant, ils ne sont pas exposés. Nous attendons de pouvoir les exposer, des crédits qui nous permettront d'agrandir le musée des plans-reliefs aux Invalides. Mais pour l'instant, ils sont en réserve.
Ah oui, donc c'est vraiment le moment de venir les voir, parce que on peut dire que ce sont peut-être les plus spectaculaires qui sont là.
Je crois qu'ils font partie en effet des plus spectaculaires, et on a d'ailleurs mis l'accent avec Grenoble justement sur la quantité de matériaux qu'il avait fallu mettre en œuvre pour fabriquer ce qui était considéré au XIXe siècle comme le plus beau des plans-reliefs. Il date de 1848, on a mis à peu près 10 ans à le construire, et on a une liste tout à fait impressionnante des matériaux nécessaires. On sait qu'il a fallu 126 000 arbres plantés un à un, 372 000 pieds de vigne, eux aussi plantés un à un.
Et ils sont fabriqués toujours en soie, hein, c'est
et
ça ?
Et toujours en soie, torsadés dans du fil de fer.
Absolument minuscule, c'est tout à fait magnifique. On a vraiment l'impression de voir, c'est pas une impression, hein, je pense qu'on a un reflet très direct et très fidèle de ce qu'était la ville, en l'occurrence de Grenoble. À quelle époque, là, ce plan-relief ?
Bon, nous sommes à la moitié du 19e siècle. Et ce que je trouve très intéressant dans Grenoble, que signalait Max, c'est qu'une ville et sa garnison vivaient aussi sur la campagne alentour. Donc c'est pour ça qu'il était aussi tellement important de montrer quelles étaient les ressources, à l'époque évidemment essentiellement l'agriculture. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui c'est un document tout à fait intéressant sur le mode de vie, le mode de production industrielle et surtout agricole.
Ce qui serait amusant, c'est de superposer ce plan en relief, en trois dimensions que nous avons sous les yeux, avec ce qu'est devenu Grenoble aujourd'hui, par exemple. On verrait sans doute notamment une expansion urbaine
Oui, absolument.
Mais
c'est d'ailleurs ce que l'on voit avec le dispositif de Google, qui a filmé donc dans les réserves la maquette et qui l'a superposé à la ville actuellement. Donc c'est un petit peu ce qu'on peut faire avec les plots Google qui sont là.
Alain Monferrand, du point de vue de la fortification, que voulait-on mettre en avant avec ce plan-relief de Grenoble ?
D'abord, Grenoble est à l'époque, puisque la Savoie ne deviendra française qu'en 1860, c'est la première grande place forte qui permet d'enrayer une invasion de la France par la vallée de l'Isère. Et par ailleurs, ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit bien, on est sous Louis-Philippe, on voit que la portée du canon commence à être plus grande. Donc on commence à couvrir des sommets qu'on ne couvrait pas forcément du temps de Vauban à Briançon. Et vous avez la Bastille, je signale qu'on peut encore la voir grâce à un téléphérique. Il y a d'ailleurs un musée des troupes de montagne dans la Bastille. On n'a plus l'enceinte urbaine sur la plaine, mais on a encore tout le dispositif de montagne et qui fait de la Bastille un des forts de montagne les plus intéressants avec ce qu'on peut encore voir à Tournou, à l'Écluse et ailleurs.
Vous me disiez tout à l'heure que la fortification, c'était l'indice de l'arrière-pensée.
Voilà, c'est le marqueur des arrière-pensées ou des craintes. C'est de la dissuasion, la fortification. Et simplement, c'est une dissuasion, c'est une crainte qui s'imprime dans la pierre. Donc après, on peut la consulter, cette crainte. Elle évolue en fonction des frontières.
Éric Dereau, est-ce qu'une exposition comme celle-là préfigure ce que va être la Maison de l'Histoire de France? Est-ce que vous êtes dans l'esprit de ce que vous voulez faire avec cette nouvelle, toute nouvelle institution naissante?
Oui, je crois qu'on est totalement dans l'esprit. L'idée, d'abord, c'était de faire partager au plus grand nombre, non seulement de Français, mais de visiteurs venus de tout pays, de tous horizons, un certain nombre de chefs-d'œuvre inconnus, et à partir de ces chefs-d'œuvre, de mener une réflexion contemporaine. C'est pour ça que nous avons tellement insisté avec Max sur une réflexion sur les frontières, sur le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, à l'heure où on se pose tellement de questions
sur la constitution du territoire,
sur la constitution du territoire, la constitution de l'espace. Et je crois que c'est la parfaite démonstration de ce que un fragment, un objet de l'histoire peut permettre de mener comme réflexion sur un fait de société en réalité. Et puis ce qui est important aussi de dire, c'est que ça concerne absolument tous les citoyens du monde dans la mesure où la préhension, la captation qu'on fait de leur environnement, les hommes, a longtemps été liée à la balistique, à la portée balistique. Paul Virilio disait qu'aujourd'hui nous sommes tous des soldats de première ligne à cause de l'atome, il n'y a plus d'avant ni d'arrière. Et je crois que ces plans reliefs nous permettent aussi de mener cette réflexion entre ce que nous sommes, les dangers auxquels nous pouvons être soumis, et l'espace et le territoire.
Et cet espace et ce territoire ont été tellement malmenés depuis le règne de Louis-Philippe, depuis le milieu du XIXe siècle, qu'il est bon peut-être de venir méditer aussi sur ce qu'a pu être le paysage français, en l'occurrence, puisqu'on nous le présente à travers ces plans-reliefs, précisément tel qu'il était. Après la montagne, nous allons aller faire un tour du côté de la mer, puisque nous attendent là-bas, complètement à l'opposé de la verrière du Grand Palais, nous attendent d'immenses plans-reliefs qui nous donnent à voir la rade de Cherbourg et celle de Brest.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec une émission exceptionnelle aujourd'hui depuis le Grand Palais, dans le cadre de l'exposition La France en relief, chef-d'œuvre de la collection des plans-reliefs de Louis XIV à Napoléon III. Ce sont des pièces spectaculaires de la collection unique, Franck vous l'a dit, unique au monde, du musée des plans-reliefs. C'est à vous, Franck.
Vous avez jusqu'au 17 février pour venir visiter ici, sous la verrière du Grand Palais, cette extraordinaire exposition consacrée aux réserves du musée des plans-reliefs. Alors, n'allez pas croire qu'on vous a mis des plans-reliefs de deuxième ordre ou de deuxième catégorie. Au contraire, on peut dire, Max Polonowski, que les plans-reliefs qui sont présentés ici sont parmi les plus spectaculaires, même s'ils ne sont pas dans les collections permanentes du musée des Invalides.
Alors, ils ne sont pas montrés pour une très bonne raison, c'est que nous n'avons pas toujours la place de les présenter vu leur taille. En effet, Cherbourg fait 160 mètres carrés, c'est le plus grand plan-relief de la collection.
Ah oui, il est gigantesque. Là.
Il a été construit aux Invalides et il n'en était jamais sorti. Et nous avons aussi Brest qui fait 130 mètres carrés.
Et là-bas derrière, on ira le voir tout à l'heure.
Qui représente, comme vous l'avez dit d'ailleurs, en fait, ce ne sont pas seulement des villes, mais des paysages qui ont entièrement disparu. Les banlieues urbaines ont transformé la vision que l'on avait de ce qu'étaient ces villes du XIXe siècle. Et là, on peut vraiment s'en rendre compte.
16 plans-reliefs sont exposés ici au Grand Palais. Combien en existe-t-il au total?
Au total, il y a 100. plans reliefs. Il y en a 28 qui sont présentés actuellement dans la galerie permanente du musée des plans reliefs.
Ce qui veut dire que pour les passionnés, ici, en sortant d'ici, on peut très bien traverser la Seine et aller juste là-bas aux Invalides visiter les 28 autres plans reliefs exposés.
Voilà. Tout
et puis
à
on
fait.
Peut aussi prendre le train à la gare du Nord et s'en aller à Lille parce qu'il y en a aussi là-bas.
Exactement, il y a 15 plans-reliefs qui sont en dépôt au Palais des Beaux-Arts de Lille où ils sont présentés, qui représentent les places du Nord et de Belgique.
Les autres, parce que quand on fait le calcul, l'addition, il en reste quand même un certain nombre dans les réserves. On les verra à une autre occasion,
mais
un jour.
Nous espérons que justement ceux que nous présentons dans la grande nef du Grand Palais et ceux qui sont encore dans nos réserves, une quarantaine, eh bien pourront être présentés dans les galeries du musée des plans-reliefs aux Invalides qui les attendent.
Est-ce que ces plans-reliefs sont une spécialité française? Est-ce que ça existe à l'étranger?
Non, c'est une collection absolument unique. Il n'y a jamais eu de collection qui se soit développée pendant deux siècles à représenter des villes à cette échelle. Je rappelle que cette échelle est un 600e parce qu'il s'agissait de un pied pour Saintoise au 17e siècle et qu'on a continué même avec le système métrique à conserver cet esprit de la collection.
Mais vous savez, je crois qu'on surprendrait, ça me donne une idée d'émission, ça on surprendrait un certain nombre de nos auditeurs en leur disant que les dimensions de leurs portes ou fenêtres actuellement, les portes standards qu'on vend dans les maisons et dans les pavillons actuellement, sont directement inspirées des anciennes mesures de l'ancienne France. Justement, toutes ces dimensions-là n'ont pas changé finalement, et on les a simplement traduites en mètres et en centimètres.
Mais voilà, belle continuité.
C'est une certaine continuité. Nous sommes devant donc cet immense ce plan-relief qui se déploie en arc de cercle. C'est toute la rade de Cherbourg. Alors nous sommes en quelque sorte au nord et nous regardons vers le sud là. Et nous avons ce qu'était Cherbourg et ce que Cherbourg n'est plus, Éric Dereau.
Oui, absolument. C'est ce que je trouve aussi très émouvant dans cette exposition, que ce soit pour Cherbourg et plus encore pour Brest. Ce sont deux villes qui ont été terriblement bombardées pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elles abritaient des bases allemandes, en particulier Brest, une base sous-marine. Et la reconstruction a été très rapide dans l'après-guerre. On n'avait sans doute pas les moyens de refaire ce qui avait pu être fait ailleurs. Et je crois que là aussi, un des objectifs de la Maison d'Histoire de France, c'est de mener une réflexion sur ces traces, non pas ces vestiges, parce que je trouverais ça un peu triste d'appeler ça des vestiges, mais plutôt des traces, ces témoignages de ce qu'était la France, et peut-être, pourquoi pas, imaginer qu'à partir de ces plans-reliefs, on puisse reconstruire certains bâtiments ou re-ériger certaines perspectives qui ont été particulièrement abîmées dans les années récentes.
Donc ils sont un conservatoire en quelque sorte.
C'est un véritable conservatoire du paysage et je pense que pour les architectes, une vraie source d'inspiration.
Alors il y a quand même un côté un peu post-nucléaire dans tous ces plans-reliefs puisque la seule chose qui manque ce sont les personnes, les êtres humains et les animaux. On n'est pas tout à fait quand même dans le jeu. On parle de jeu de prince, mais néanmoins, il s'agit de quelque chose de sérieux. On n'a pas été jusqu'à représenter les êtres vivants, en dehors des végétaux, bien sûr.
Non, je ne crois pas. Je crois que, Max, il y a eu quelques essais, mais personne n'a jamais réellement voulu y mettre des personnages. Ça avait une vraie utilisation tactique.
Hein. Oui, il n'y a pas eu de personnages, mais je pense que, malgré tout, on les voit, ces personnages,
oui, vrai,
à l'intérieur de ces
on
rues.
On ne peut pas s'empêcher de les imaginer.
Mais oui, parce que c'est très, très vivant, en fait, cette représentation. Et quelquefois, même, on a l'impression qu'on est devant une image, une vue aérienne réelle, parce qu'on est vraiment dans une représentation de la réalité,
et
très
nous,
vivante.
Nous sommes là, en plein dans la mer, si je puis dire. Alors, quand on se retourne, quand on se place dos, à ce port et à cette rade de Cherbourg, nous avons en face de nous la célèbre digue de Cherbourg.
Oui, c'est un chef-d'œuvre mondial puisqu'il s'agissait d'un projet complètement démesuré.
Encore un cas unique, hein, décidément.
Absolument. À Cherbourg, une décision du roi Louis XVI, c'est son seul voyage, hein,
oui,
pendant son règne.
Cherbourg est le seul endroit où Louis XVI se soit rendu en dehors de la région parisienne dans tout son règne.
Absolument.
En fait.
C'est pour voir justement cette expérience de fabrication de la plus grande rade du monde, d'Europe, en tout cas à l'époque. Et donc il s'agissait de créer cette digue à partir d'une expérience de cônes qui étaient transportés, des cônes en bois qui étaient transportés sur place et remplis de pierres. Et c'est une expérience qui n'a pas finalement été couronnée de succès, mais la digue a été continuée par Napoléon Ier et achevée par Napoléon III.
Nous nous approchons tranquillement du dernier de ces grands plans reliefs qui lui représente une autre ville totalement détruite, alors là carrément bombardée. Et d'ailleurs je remercie les équipes du Grand Palais d'avoir bien voulu pendant le temps de cette émission éteindre la sonorisation qui représente ici même des bombardements, donc ça nous aurait un peu gêné évidemment. C'est Brest. Alors nous avons là la célèbre Brest du temps du temps de Louis XIV au moment de l'ambassade de Siam, pas tout à fait, puisque c'est un plan relief assez tardif, mais enfin, la Brest d'autrefois, en tout cas celle d'avant le bombardement.
C'est Brest en 1811. C'est une décision de Napoléon Ier qui s'est beaucoup intéressé à ces plans reliefs et qui a fait construire le plan relief de Cherbourg et le plan relief de Brest. Et ça représente en effet Brest sous le Premier Empire. Et c'est une maquette qui n'a pas été réactualisée. Donc l'ensemble de la ville et l'ensemble du bocage, puisqu'il y a 130 mètres carrés de bocage tout autour de la ville, eh bien c'est la représentation au début du 19e siècle de cette campagne bretonne.
Mais alors là, ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est que je vois très bien les fortifications, on voit très bien la rade, etc. Mais à quoi sert-il de représenter la campagne comme ça sur des lieux?
Parce que si vous regardez bien, et en particulier en montant sur la passerelle qui vous permet d'avoir une vue plongeante sur la maquette, vous verrez que sur un certain nombre de collines, eh bien, il y a des petits forts, des petites fortifications qui sont là pour protéger l'accès à la ville et l'accès au goulet de Brest.
Merci beaucoup Max Polonowski, merci Éric Deraud, merci Alain Monferrand. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 17 février, je vous donne une journée de plus, pour venir voir cette exposition ici, sous la verrière du Grand Palais à Paris, une exposition consacrée aux réserves du musée des plans-reliefs, qui par ailleurs se trouve, lui, aux Invalides.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.